Bon matin à tout le monde. Bienvenue pour le début de dernière journée des communications. Donc j'ai l'honneur de présenter Joël Glaize qui va parler en premier ce matin. Donc qui est professeur émérite à l'université de Provence et qui travaille essentiellement sur la littérature romanesque des 19e et 20e siècles. Essentiellement Balzac, Sarraute, Simon, Volodine, etc. etc.
Un seul titre.
Voilà. Et donc il a contribué, comme elle l'écrit, au recrutement de quelques sympathisants post-exotiques.
Avec Anne
Roche, voilà. Et donc les deux derniers ouvrages parus, mais vous pouvez en trouver bien d'autres. Donc un collectif sur la bibliothèque de la Pléiade avec Philippe Roussin. Il y avait eu un colloque à Aix-en-Provence donc sur l'histoire de la bibliothèque de la Pléiade. Et puis, donc le plus récent qui vient de sortir, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, un essai sur la cousine bête de Balzac. Voilà. Donc, je lui transmets la parole.
Bien, alors je commencerai par des remerciements. À mes compagnons d'organisation d'abord, et puis surtout aux intervenants, à tous les intervenants, ceux qui restent et ceux qui sont déjà partis, parce que ils ont tout dit, enfin en tout cas tout l'essentiel, donc je peux sans trop de scrupules devant le corpus parler d'autres choses, parler de choses matérielles, de choses mineures, donc de livres et de ce que l'on appelle l'énonciation éditoriale. Donc mon titre a changé et c'est maintenant dispositif romanesque et mise en livre post-exotique. Moi aussi j'avais été amusée, comme Audrey qui est là, j'avais été amusée de cette expression d'un journaliste comédie post-humaine où je voyais le symptôme d'une canonisation menaçante et une entrée en matière piquante. Enfin, c'est raté, mais je voudrais malgré tout ne pas perdre de vue complètement Balzac puisque je m'attacherai au Volodine qui pense son œuvre comme un roman de romans, au pluriel, un édifice. Un ensemble de textes à transformer en livres, un ensemble de voix à porter vers les lecteurs. Bref, au Volodine qui se fait l'éditeur, mais pas au sens de celui qui est le publisher, mais au sens anglais d'éditeur, et qui se fait donc le serviteur, pour reprendre le mot de Nadeau, de la littérature post-exotique. Car je me risquerais à aborder, mais de biais, la question de l'auteur au pluriel, du post-exotisme, et de son effacement derrière cette fonction éditoriale, pour envisager donc le Volodine, auteur-éditeur des livres du dispositif romanesque exotique. Les composantes opératoires de la notion de dispositif, qui était un mot extrêmement banal, mais que je reprends de façon un peu plus technique peut-être, c'est-à-dire que sa dimension matérielle, l'hétérogénéité des éléments agencés, ainsi que l'intentionnalité d'une instance qui lui reste extérieure, me semble pouvoir rendre compte du caractère paradoxal de l'activité auctoriale de Volodine, s'effacer derrière l'œuvre et de ce fait en recueillir, regrouper, combiner, agencer les fragments en un ensemble, je cite un étrange soupir de John Untermensch, un ensemble magnifique et sombre dont la lecture même cursive révèle des relations architecturales et des connivences intertextuelles, comme le fait dans ce court récit, la trilogie de Yazar Tarchelsky. Donc je ne parlerai pas de connivences intertextuelles, ça a été très bien fait hier, mais je parlerai en revanche de l'ensemble de l'architecture. J'évoquerai d'abord très rapidement, parce qu'on en a assez parlé, quelques rôles où s'affiche le retrait de l'auteur post-exotique, avant de souligner, et ce sera l'essentiel de mon propos, la force avec laquelle l'instance auteur fait retour dans la mise en place des dispositifs, les dispositifs des livres, mais aussi le dispositif de l'ensemble. Donc d'abord, fiction d'auteur. Le refus de Volodine de se poser en auteur se manifeste dans un double geste d'effacement et d'éclatement, on le sait, effacement du nom derrière les pseudonymes, éclatement de l'auteur et dispersion de sa voix derrière les hétéronymes, avec pour effet la bascule dans la fiction, de l'auteur dans la fiction. La visée explicite de ce double geste est de faire de Volodine un personnage de fiction qui radicalise cette posture théorique en fictionnalisant également tous les discours qu'on appelle épitextuels qu'il peut tenir. On a dit combien l'hétéronymie qui le met à égalité avec ses personnages à l'intérieur du monde post-exotique brouille les frontières entre fiction et réalité. Je ne parlerai pas de métalepse. Appartenant à la fiction tout en ayant une réalité éditoriale, le pseudonyme Antoine Volodine n'est qu'un des hétéronymes d'un auteur dont le nom est masqué. Désigner le rôle de porte-parole collectif comme un surnarrateur, c'est signifier qu'il n'est pas extérieur au monde fictionnel, qu'il est une instance du texte et non un point origine. Je rappelle la citation du post-exotisme, leçon 11, « Derrière l'auteur, porte-parole et signataire du livre, et derrière la voix du ou des narrateurs mis en scène dans le livre, il faut replacer un surnarrateur qui s'est volontairement effacé et qui, en un processus de camaraderie intime, contraint sa voix et sa pensée à reproduire la courbe mélodique d'une voix et d'une pensée disparues. » Cette instance en retrait, effacée et anonyme, ne s'identifie de façon stable avec aucun des hétéronymes, à peine plus Volodine que les autres, mais flotte, tel un ange majeur, à l'arrière de tous les textes et livres. En revanche, la camaraderie intime entre les auteurs-personnages conduit certains de ces êtres de fiction à prendre une réalité éditoriale. Quelques hétéronymes, Thierry par exemple en a parlé, deviennent des auteurs en signant des livres. Ce sont eux qui apparaissent dans les derniers volumes publiés chez Verdier, sous la rubrique qui tient lieu de liste du même auteur, mais qui n'est pas évidemment intitulée comme ça, qui est intitulée « Voix du post-exotisme ». Et cette rubrique regroupe donc dans une liste unique les volumes de Bassmann, de Kronauer, de Dräger et de Volodine. Ainsi, ce n'est pas seulement la personne de l'auteur qui se retire et s'efface, pas seulement sa biographie, son corps, mais la fonction auteur essentielle soulignée par Foucault, jadis, le regroupement sous un seul nom d'un ensemble de textes. En revanche, d'autres rôles sont assumés explicitement, ceux de porte-parole, de traducteur, d'éditeur. Alors avant de m'attarder sur celui d'éditeur, je dis quelques mots sur les deux premiers dont il a été beaucoup question, donc ce n'est pas la peine que je m'y attarde. Le porte-parole s'efface dans la voix de ses personnages, tantôt en s'identifiant à eux, tantôt de l'extérieur pour transmettre une parole empêchée. Donc on a parlé de la ventriloquie post-exotique qui fait renaître la voix étouffée ou disparue, qui rend hommage, un dernier hommage. Je cite Volodine, « Il faut voir et concevoir Volodine comme une signature collective qui assume les écrits, les voix, les poèmes de plusieurs auteurs. Cette radicale étrangéité, c'est un mot post-exotique, a des limites dans la mesure où l'auteur se heurte alors aux normes éditoriales et juridiques de l'institution de la littérature. Le nom d'auteur sur la couverture du post-exotisme leçon 11 est celui de Volodine, alors même que dans la page du faux titre qui répare en quelque sorte ce à quoi Volodine a dû renoncer dans la première de couverture, dans cette page de faux titre donc intérieur, ce nom suit les sept autres. Donc ce nom a assumé de fait, du moins jusqu'en 1999, où paraît le premier livre de Kronauer, la fonction auteur de Foucault, que je rappelais tout à l'heure, rassembler sous un nom un ensemble d'ouvrages, délimiter les attributions. Pour aller plus loin, pour franchir ses limites, précisément attributives, Il a fallu, et pour publier d'autres hétéronymes, il lui a fallu changer d'éditeur. C'est alors la page de garde, qui explicite, en même temps que leur caractère pluriel, l'unité des voix post-exotiques. Et ce désir d'identification à une pluralité d'écriture, cette volonté de disperser l'identité d'auteur, le dernier titre publié à la rentrée au Seuil, les proclame dès la page de couverture, Antoine Volodine, au-dessous écrivain au pluriel, le nom d'auteur et le titre ne forment qu'une seule et même signature, qui affirme paradoxalement une identité d'auteur en même temps que sa pluralité. Ce second rôle de traducteur, nous en avons entendu parler beaucoup hier, se déclarer le traducteur des livres post-exotiques, donc c'est une autre manière de se tenir en retrait, d'accueillir l'autre dans sa langue, comme le dit Antoine Berman, et d'écrire en français comme en une langue étrangère. Une manière de s'étranger de soi, de créer une distance, pour modifier le regard. Comme sa culture et sa langue, le traducteur efface en effet sa voix et parfois même son nom derrière la voix étrangère. Dernier rôle, et c'est celui qui me retient ici, Volodine assume le rôle d'éditeur, mais au sens, je l'ai dit, du terme anglais. Ainsi, lorsque dans un entretien de 98, il compare son œuvre à une collection, dans le cadre d'une sorte de collection Voix du post-exotisme, je présente un certain nombre de romans indépendants les uns des autres, derrière quoi sont suggérés l'entièreté de la sensibilité post-exotique et en résumé tout un monde. L'auteur disparaît derrière l'objectivité de livre dont l'éditeur fait apparaître la cohérence. Un ensemble d'ouvrages dont il ne revendique pas la paternité, mais seulement la responsabilité de leur présentation. Cette fonction éditoriale, où se dit le désir de donner les livres comme un ensemble, et un ensemble qui fait un tout cohérent, souligne donc le caractère de dispositif de cette littérature, comme celui de chacun des ouvrages de cette collection. L'auteur-éditeur s'efface derrière le résultat matériel et symbolique de son travail éditorial. Donc je passe à mon deuxième point, la poétique post-exotique de la mise en livre. Pour parler de des livres. Donc voyons les dispositifs qui se déploient dans l'espace des livres post-exotiques et les éléments discrets, très discrets, par lesquels ils se mettent en place. Et d'abord, la disposition du texte, c'est-à-dire la manière dont il se présente, se découpe, se met en page, se donne à voir, tout autant qu'à lire. Tout ce à quoi la poétique narrative a été longtemps indifférente, mais qu'elle commence à intégrer. Le souci du livre pour l'écrivain se réduit souvent à vérifier l'exactitude de son texte, à moins qu'il ne soit poète, artiste ou créateur de livres d'artistes et qu'il n'envisage l'espace de la page, le support et le blanc comme signifiant. Je cite Mallarmé à propos du coup de dé, une sorte de point d'origine, la pagination où est tout l'effet. Or, l'attention et le soin porté à la mise en livre des ouvrages de Volodine témoignent du souci de mettre en relation la disposition romanesque d'un côté et une certaine poétique de l'autre. Cette disposition romanesque donc relève du visible, sans pour autant évidemment relever de l'iconique, mais elle retient peu l'attention puisqu'elle est destinée à s'effacer dans l'acte de lecture qu'elle facilite et ou oriente néanmoins. Elle se situe à la frontière de l'auctorial et de l'éditorial, mais devient, le plus souvent pour Volodine, de l'auctorial, en cohérence avec le projet post-exotique. L'auteur joue pour les dérégler avec les codes éditoriaux qui régissent les couvertures et les pages liminaires, le découpage et le titrage des chapitres, la rédaction de la table des matières et la mise en page. Je ne reviendrai pas sur l'intégration à la fiction du péritexte et de l'épitexte, c'est bien connu, mais je m'arrêterai sur le découpage de la matière romanesque en chapitres ou segments, qui donne une visibilité certaine, bien que discrète, je reprends toujours le mot qui est le mot de la leçon 11, à la scansion des blancs et ou des pages blanches. Ces césures essentielles engagent le rythme de lecture et incitent donc à la suture, à la prise en compte de la rupture, en même temps qu'à la recherche de liaison. La division en chapitres, ce qui est appelé nara, parfois nara, permet en outre la numérotation et surtout le comptage, ce que la leçon 11 appelle donc des contraintes discrètes, structuration autour d'un nombre, impair le plus souvent, assez systématiquement, vous le savez, des multiples de 7, structuration en multiples de 7 qui semble commencer dans Lisbonne dernière marche, puis s'interrompre ensuite, remplacée par des multiples de 5 et puis de 3. Donc, une structuration en 7 chapitres qui se retrouve, bien évidemment, dans les livres de Manuela Dreger et dans ceux, enfin dans ceux, du moins dans, pour les multiples de 7, dans Avec les moines soldats, pas dans les haïkus qui sont répartis en 3 ensembles. Contrairement à l'usage courant aujourd'hui, ces chapitres, donc comptés en quelque sorte par le post-exotisme, sont aussi titrés. Et ces titres jouent un rôle dans le dispositif en ce qu'ils forment commentaire, un commentaire décalé, ou bien une information sur le genre ou la disposition des chapitres. Exemple, dans Lisbonne dernière marge, seuls comportent des titres les chapitres du livre imaginaire rêvé par Ingrid et Kurt pour révéler de manière cryptée la vérité sur la société de la Renaissance. Titre pastiche d'un discours universitaire, vous vous souvenez, à propos des contes pour enfants ou bien la multiplication des doubles dans l'œuvre posthume d'Eva Rolnick. Ce titrage et ce découpage soulignent le caractère métatextuel du roman imaginaire, mais remettent surtout en cause, pour moi, la primauté du récit cadre, celui des derniers jours du couple que forment la terroriste et son dog. Les récits imaginaires prennent ainsi le pas sur les fragments du récit premier, qui pourtant commence et termine le livre. Le conte prend le pas sur le romanesque et le discontinu sur le continu. Titre, maintenant table. Que je décris, n'est-ce pas ? Je me contente de décrire ces phénomènes. Les titres sont souvent repris en une table des matières, qui est moins un lieu d'enregistrement de l'organisation capitulaire qu'un espace d'écriture où se confondent auteur et éditeur. La table de la leçon 11, par exemple, est le lieu où s'affiche le dispositif du livre, celui où le récit premier, disons, le récit continu, celui de l'agonie du narrateur, enfin de Lutz Bassmann, se donne à lire comme la leçon 11, où viennent s'enchasser les 10 autres, les encadrés que signent les co-auteurs. C'est dans cette table et seulement là qu'apparaît nettement la fonction de porte-parole de Volodine, qui ne signe que la leçon 11, comme sur la page de titre intérieur, où son nom s'inscrit en dernier et s'efface derrière les écrivains personnages. La table devient un espace d'écriture intégré à la fiction et non pas seulement une signalétique qui relèverait de l'énonciation éditoriale. Celle de Lisbonne dernière marge que l'on a déjà évoquée est peut-être un exemple, un apax, enfin un exemple particulièrement évident. Apax peut-être est intégrée au premier chapitre qu'elle clôture. C'est donc un élément fictionnel appartenant à l'imaginaire d'Ingrid Vogel, tout autant qu'un élément éditorial, puisqu'elle réfère aux pages réelles du livre, selon le phénomène de Metalepse dont j'ai promis de ne pas parler. Ces éléments, de toute façon, ce n'est pas la peine, il suffit de la nommer pour l'évoquer. Ces éléments ancillaires d'encadrement du livre et de la lecture, qui sont destinés à s'effacer une fois joué leur rôle, se voient donc accorder, il me semble, une attention particulière. Il constitue pourtant un versant négligé, enfin un versant minoré, le versant technique du dispositif qui s'inscrit dans l'espace du livre. Volodine manifeste ainsi un intérêt pour le support, pour l'espacement, qui, me semble-t-il, l'apparente aux poètes ou aux artistes, à moins qu'il ne soit l'empreinte d'une culture plus orientale qu'occidentale. On sait que dans la culture de la calligraphie, l'attention portée au support est constante, et dans la culture chinoise plus généralement, le blanc n'est pas une absence, mais un vide qui devient un principe dynamique. Dans un cas comme dans l'autre, enfin dans une hypothèse comme dans l'autre, cet investissement d'un espace qui relève souvent de l'énonciation éditoriale est révélateur, en fait, d'une extension des interventions d'auteurs, mais extension à leur versant artisanal. Plus que dans cette disposition romanesque, la particularité du post-exotisme est cependant de des dispositifs qui ont en commun de contrecarrer le flux narratif. Un dispositif de mise en espace d'éléments hétérogènes est à l'œuvre, sinon dans tous, du moins dans de très nombreux livres, et ce sont ceux-ci qui me retiendront. Je prendrai deux exemples. D'abord d'une hétérogénéité sémiotique, c'est-à-dire texte et photographie en l'occurrence. Premier exemple, Chaga, qui est un texte publié en 2000 dans Kaoid, la revue électronique, un texte qui deviendra un chapitre de nos animaux préférés, et qui présente un dispositif et une mise en page qui intrigue. Ce texte intègre à ses pages écran 16 photographies, mais des photographies absentes. Seuls en subsistent les titres et le nom de l'auteur, Joseph Koudelka, ainsi que leur emplacement dans la double page. Donc, si l'absence des photos s'explique par une banale affaire de droit d'auteur, comme a bien voulu me l'expliquer Volodine, il est notable que néanmoins l'insertion de rectangles symbolisant les images ait été maintenue et selon une mise en page qui pourrait être celle des photos, enfin, à condition qu'elle soit réduite. Les photographies de Koudelka jouent ainsi un rôle pragmatique de commentaire, du coup, ce commentaire qui est constitutif du genre de la Chaga, un commentaire non verbal qui affirme la fraternité des univers imaginaires de l'écrivain et d'un photographe dont on a dit que, fasciné par la force de la destruction, ces images de paysages anthropiques créaient un monde, je cite un préfacier de son livre « Chaos », un monde obsessionnel et onirique. L'effet du dispositif qui met en scène le manque d'images, d'icônes, consiste dès lors à renforcer le pouvoir que possède chacune des 7 sections de la Chaga de nous faire voir, c'est-à-dire de faire l'image, pour reprendre une expression du commentaire textuel cette fois, de la reprise de cette Chaga dans nos animaux préférés. Deuxième exemple, deuxième description d'exemple, le dispositif de Macao, que vous connaissez, présente en seconde partie donc le cahier de photographie d'Olivier Aubert. Aux 49 textes de longueur inégale succèdent 51 photographies regroupées en 9 séquences. D'une part, un récit de mise à mort dans une atmosphère chinoise, dont le narrateur et victime Bruegel appelle, avant de mourir, quelques souvenirs qui entretiennent en lui l'amour de Macao. D'autre part, des photographies de scènes paisibles, de la vie chinoise ordinaire, quotidienne, qui contrastent avec la fin tragique de Bruegel et qui peuvent passer pour une illustration de l'envers onirique du texte. Ces photographies pourraient en effet fournir un référent au photogramme, je cite le texte, au photogramme magique capable d'alimenter tes rêveries chinoises jusqu'à ta fin et même après que le narrateur personnage se conseille à lui-même d'évoquer. Donc un commentaire ou un accompagnement au sens musical qui forme diptyque avec le récit. Cependant, une autre lecture vient se superposer à celle-ci et faire trembler légèrement les images. Par l'effet du montage et de la contiguïté, ces photos en noir et blanc deviennent inquiétantes ou énigmatiques, en particulier les ombres dans les ruelles sombres. Et le quotidien banal donc, se métamorphose en réalité sordide et en quotidien du désastre. C'est une expression du pan textuel du livre. Voilà pour les dispositifs hétérogènes, enfin sémiotiquement hétérogènes, mais la plupart des dispositifs post-exotiques présentent une hétérogénéité textuelle et non pas sémiotique, mélange des genres, bien sûr, et des discours. Je m'intéresse ici à la manière dont le dispositif de certains livres amène l'auteur à surveiller ou à veiller de près, disons, à cette disposition. J'en distingue au moins deux types, mais je simplifie bien sûr, et deux types qui peuvent se combiner à l'intérieur d'un même livre. D'une part, l'enchâssement dans un texte premier de textes différents, sur le modèle d'épopée gigogne, c'est bien connu. Donc, c'est un modèle qui domine dans la biographie de Murgrave, de Lisbonne, dans le port intérieur, Nuit blanche en Valkyrie, et puis la leçon 11. D'autre part, disposition d'éléments autour d'un axe central, soit en miroir, comme dans Des anges mineurs ou Bardot, ou nos animaux préférés, ou encore avec les moines soldats, soit qu'ils présentent des dispositions parallèles, comme dans Vue sur le Suaire. Donc, inventer des xénogenres consiste pour une grande part à inventer des dispositifs de formes brèves hétérogènes. Chaga entre Wout, Nara, et même, on sait que même le romance est travaillé par le fragmentaire. Ils sont fondés, donc ces xénogenres sont fondés sur la mise en écho ou la répétition avec variation de dispositifs proposant des éléments hétérogènes entre lesquels le lecteur est invité à tisser des liens, et on a eu hier un très bel exemple de cette lecture ligature. Les livres post-exotiques donc, fonctionnent donc, comme des montages, avec soulignement des effets par la continuité ou l'écart. Et la césure est à la fois tension entre continuité et discontinuité, entre unité et diversité, et ouverture, béance plutôt, sur un temps autre, achronique, donc plongée, qui permet de plonger dans un hors-temps. Exemple, nos animaux préférés, donc qui est sous-titré comme Les moines soldats, entre voûtes, est composé de textes organisés en miroir. Leur forte hétérogénéité narrative est soulignée par le découpage et par la mise en page. Alors que les récits liminaires et finales sont des variations sur une même trame, la rencontre mortelle entre le dernier animal et le dernier humain, les deux chagas insérés contrastent violemment, d'une part, cette biographie burlesque de Reine Sirène, des farces animalières racontées sur un ton parodique, goguenard, qui radicalise l'autodérision de l'ensemble du volume, et de l'autre, celle qui a été publiée d'abord isolément dans K8, cette description énigmatique, désespérée, de paysages oniriques. Dans cette chaga du ciel péniblement infini, donc le deuxième volet, un narrateur, narratrice, humain, oiseau, décrit un paysage intérieur, enfin plutôt oiseau qu'humain, décrit un paysage intérieur où il, elle, revit sa mort, et l'humour, dit le commentaire, l'humour du désastre atteint ici sa limite. La reprise de cette chaga s'accompagne de quelques pages d'un commentaire, donc textuel et non pas photographique, auquel s'ajoute l'écriture des titres qui n'existaient pas dans la revue. Et mis bout à bout, comme dans le roman de Calvino, C'est par une nuit d'hiver, qu'on a déjà cité, ils apportent un contrepoint parodique d'hermétisme, car leur décryptage est déceptif, ils indexent un secret dont on ne saura évidemment rien. Mais l'intention ici à l'œuvre reste indécidable. Est-ce un hommage à l'un des premiers hétéronymes, Infernus Johannes, ou bien une parodie d'hermétisme, ou bien un hommage à une écriture poétique absente et impossible. Donc, deux exemples de mise en livre qui font de l'auteur un éditeur, disons, soigneux de ses textes, comme ceux de ses camarades écrivains, et dont le travail de montage fait consonner, contraster, entrer en dialogue ses narras ou ses chapitres. Ce dispositif privilégie l'espace du livre au détriment de la continuité narrative. Et l'auteur n'inscrit donc sa présence que dans les blancs, la dispersion de ces îlots narratifs, on a parlé des archipels, la mise en écho de leurs harmoniques. J'en viens au post-exotisme comme dispositif, mais dispositif de livre. La dimension technique d'un dispositif littéraire relève de la matérialité du livre et de sa publication. Le dispositif post-exotique, on l'a dit, utilise les rouages du monde éditorial pour donner une existence littéraire aux différents hétéronymes et le fait avec une remarquable cohérence et radicalité. Après avoir suivi un parcours de légitimation exceptionnelle, si on peut dire ça, de De Noël au Seuil en passant par Minuit et Gallimard, Volodine, donc franchissant les limites institutionnelles, a entrepris de distribuer les livres post-exotiques entre plusieurs éditeurs simultanément. À partir de 1999, l'École des loisirs, donc en même temps que Le Seuil. Puis, en 2008, Verdier s'ajoute à ces deux maisons quand apparaît la signature de Bassman, avant qu'à la rentrée 2010, les éditions de L'Olivier ne remplacent l'École des loisirs pour publier Dragueur et que paraissent pour la même rentrée littéraire trois hétéronymes simultanément. Les livres de chacun d'eux se présentent donc sous une apparence matérielle différente qui dépend en grande partie des maquettes éditoriales, bien sûr. Pour faire contrepoids à cette disparité, seule la très discrète encore liste déjà mentionnée des auteurs post-exotiques apparaît dans les pages liminaires. On voit le risque affronté à la mesure de la force de cohérence de l'œuvre, qui met en jeu la force de cohérence de l'œuvre, celle qui a été acquise au fil du temps et des publications, puisque les noms de Dragueur, comme celui de Bassman, ne sont connus que des lecteurs sympathisants. D'ailleurs, la manifestation du dispositif comme ensemble n'a pas toujours été possible. On se souvient que, je crois que ça a été mentionné, Jérôme Lindon avait préféré considérer Volodine comme un auteur neuf et occulter son passage éditorial chez De Noël. Mais d'un éditeur à l'autre, le nom restait néanmoins le même, ce qui a changé ultérieurement et ce qui change encore de plus en plus. Donc pour l'ensemble du dispositif comme à l'intérieur d'un seul livre, il s'agit bien de maîtriser à la fois la diversité et l'unité des voix, et c'est le travail essentiel à quoi je m'attache maintenant. C'est le terme ou l'expression « voix du post-exotisme » qui désormais fonctionne comme nom d'auteur, un sur-auteur en quelque sorte. Et pas sur narrateur, qui regroupe et unifie des séries différentes, des livres différents et plus encore des genres au statut et à la légitimité surtout différentes. Les livres de Dragueur, au moins, mais aussi ceux de Cronauer, appartiennent désormais explicitement à l'œuvre de ce surauteur post-exotique. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, enfin, disons du fait de l'écart de légitimité qui sépare la littérature de la littérature de jeunesse. Et c'est la force du dispositif post-exotique que d'opérer pour la collection pour enfants la même sortie, enfin c'est quelque chose qui est à venir, mais qui se fait, qui est en train de se faire, que d'opérer pour la collection pour enfants la même sortie du ghetto que celle qu'avait effectuée le passage de la collection Présence du futur de Noël aux éditions de Minuit. Voix du post-exotisme, donc, c'est le nom de ce nouveau surauteur, le surauteur d'un monde fictionnel dont on ne connaîtra jamais qu'une infime partie et qui consiste en une bibliothèque ou une collection littéraire, ou plutôt, désormais, une collection de collections. Comparer les ouvrages post-exotiques à une collection, on l'a dit, c'était articuler unité et diversité et présenter l'auteur comme un éditeur. Mais c'est dans la réalité de la vie littéraire que le surauteur contraint les éditeurs à publier comme un dispositif cohérent cette xénolittérature, commentée, classée par genre, je le cite, dont la totalité n'est jamais que suggérée, par exemple dans la liste d'ouvrages, 343 ouvrages, de la leçon 11, liste dont on listes qui sont données pour partielles. C'était déjà dans la réalité de la réception que les propos de la critique avaient suivi les voies tracées par les commentaires fiction. Et d'abord par la leçon 11, qui a marqué la naissance fictionnelle de Bassmann, en même temps que la naissance institutionnelle de l'auteur pluriel Voix du post-exotisme. Dans la réalité éditoriale aussi, donc ce dispositif fait de chacun des livres un fragment d'un ensemble plus vaste, grâce à la fiction d'une littérature originaire, qu'avait élaboré Volodine dans certains entretiens, et grâce à l'invention de cette notion de post-exotisme et à la liste de commentaires fiction qui lui donne consistance en 98. Ainsi, tout livre supplémentaire viendra-t-il prendre place dans le dispositif dont la puissance d'intégration permet l'adjonction d'ouvrages et de tonalités extrêmement diverses. Le post-exotisme s'élabore ainsi comme une institution littéraire, certes en marge et démarge, une contre-littérature, mais avec son corpus de textes, ses auteurs, ses discours critiques. Il inscrit dès lors dans la matérialité des livres et dans le système éditorial un vacillement de la notion d'œuvre. En prenant acte de ce que les œuvres d'un écrivain sont toujours en attente de complément, en prenant acte de ce qu'un nom d'auteur, pseudonyme ou pas, est la façon la plus simple de rassembler et de désigner sous un vocable unique une variété de livres et d'écritures différentes. Remplacer ce nom d'auteur par le nom d'une collection, c'est donc saper aussi, saper la notion d'œuvre en l'indéterminant. Il est dans la logique du désir de donner vie à toute une littérature que de ne pas se borner à écrire des livres, si l'on peut dire, mais aussi de les inscrire dans une histoire, de les faire témoigner d'une évolution, de les accompagner de commentaires historiques et descriptifs, pour ensuite donner à ces fictions et à leurs écrivains une réalité éditoriale, avec la complicité plus ou moins contrainte des éditeurs, publishers, des vrais éditeurs, disons. Dès lors, dans la construction d'une œuvre dispositive d'une telle complexité, d'une telle cohérence, on ne peut guère voir un retrait ou une disparition de l'auteur, mais plutôt son renforcement paradoxal. L'auteur est présent dans la réalité de la collaboration éditoriale, et l'attention portée à la mise en page, les décalages, et la mise en livre aussi, je l'ai dit, les décalages, voire les dérèglements des usages éditoriaux, les négociations que cela implique, inscrivent dans la matérialité du livre autant de traces de son intervention. Le dispositif post-exotique placé en écran dévoile autant qu'il masque, non pas la personne, mais l'instance auteur, l'auteur comme porteur de l'intention de faire œuvre et comme donc instance de décision éditoriale. Son intentionnalité se manifeste aussi dans la systématicité du dispositif, dans la continuité du projet, tel qu'il s'explicite parfois. Je cite, « Je me suis mise en tête de donner existence à une totalité cohérente et de la clore pour pouvoir ensuite me retirer. » Cette auteur origine, mes origines dérobées, cette présence manifeste dans l'ensemble des formes données à l'œuvre, dans leur diversité comme dans leur récurrence, est une omniprésence invisible, non pas incarnée, mais matérialisée. Elle se manifeste également, le renforcement paradoxal de l'auteur se manifeste également dans l'élaboration fictionnelle autour de la figure de l'auteur dont nous est racontée, livre après livre, l'histoire fictive de la disparition. Disparition devenue dans la fiction, agonie, mort en cours, atomisation et dispersion, construit la figure d'un auteur à distance de lui-même, étranger à sa langue comme à sa culture, on l'a dit, et la fiction d'une écriture rêvée comme une pratique communautaire. Je ne reviendrai pas sur l'analyse de cette communauté éclatée, interrompue, désœuvrée, pour reprendre le mot de Nancy, empêchée, dont Simon Saint-Onge a parlé, par exemple. Je soulignerai seulement la dimension politique de cette valorisation des tâches de médiation, de transmission, voire de fabrication, à laquelle se livre un auteur qui refuse ainsi toute position de surplomb. Le renforcement paradoxal donc, qu'implique l'agence de l'auteur, de l'instance auteur, qu'implique l'agencement des dispositifs de chaque livre comme celui de leur ensemble, n'apparaît donc finalement, par un dernier renversement, que comme la condition même du retrait de la personne et de l'autorité de la fonction. Désincarnation et effacement, en même temps que matérialisation et multiplication, on passe de l'autorité et de la propriété à une collection, des collections de livres, à une œuvre en éclats, enfin en morceaux. Pour conclure, comme ils le font de l'histoire du XXe siècle, de ses idéaux, de ses malheurs, les voies et les mondes post-exotiques paraissent ainsi transposer dans la fiction et dans leurs dispositifs certains postulats théoriques des années 70. Clôture du texte, mais évidemment remodelé, étendu ici à la dimension du monde créé par l'œuvre, et effacement de l'auteur derrière une écriture collective, celle qu'avaient rêvé les avant-gardes, enfin pas exactement, mais que ce soit tel quel ou change par exemple. Au moment même où certains s'interrogent sur la fin de la littérature, je pense à Todorov et quelques autres, le post-exotisme retourne les accusations portées contre elle, formalisme, mise en abîme, solipsisme, en caractéristiques affichées, en même temps qu'il inscrit en son centre même la question du politique et de l'efficace de la parole. J'y verrais volontiers un défi sans tapage, mais décidé à l'institution littéraire de la part d'un auteur moins effacé qu'il n'y paraît, et finalement un exemple d'insolence post-exotique. Et je cite nos animaux préférés qui glosent cette insolence post-exotique. L'insolence guerrière, le camouflage, la prudence et l'habileté se combinent, et pour les sympathisants, elles font l'image. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Oui, on avait déjà tout dit, mais enfin c'est quand même autre chose. C'est bien, je pense aussi qu'on ait justement ce versant technique du dispositif, c'est-à-dire cette mise en livre, hein, de penser qu'un livre aussi à un moment donné c'est l'abord, c'est un objet. Donc je crois que c'était très bien qu'on ait cet aspect des choses aussi, c'est très important. Voilà, un défi sans tapage, c'est une belle formule. Donc je laisse la parole à la salle. Des réactions? Oui. Jean-Pierre Vidal?
Vous avez bien montré ce dispositif qui est comme une machine infernale qui irait, je dirais, de l'évidement de l'auteur dans son texte qui correspond à la disparition élocutoire du poète, et de l'autre côté, la constellation que représente évidemment hors de ce lieu, ce que j'appellerais quant à moi une expansion tendanciellement infinie. À la limite, c'est toute la littérature qu'on peut finir par supposer être signée en sous-main par Antoine de Levine. Et ça rejoint un peu ce que j'avais dit hier, de ce qui me semble être une des principales caractéristiques de... J'ai inscrit Homer hier. J'ai révélé que Homer aussi en train de... Bon, enfin, tout ça pour dire que ça me paraît procéder d'une sorte de... j'appellerais de terrorisme quelque part, hein. C'est-à-dire que ça répand l'inquiétude, une inquiétude salubre, mais qui peut en arriver certaines personnes à se demander si, par exemple, Victor Hugo n'est pas un pseudonyme de Roch Brieff. Et alors, pour en arriver à cette machine infernale, je crois qu'il y a un élément, un auteur, une école, plus qu'une école, un mode de pensée qu'on a un petit peu oublié dans ce colloque, qui me paraît important, moi, pour le post-exotisme, c'est Jarry. Hein, c'est la pataphysique, et en particulier, je pense aux gestes et opinions du docteur Fosterol, dans lequel il y a, comme vous le savez, ce que Jarry appelait les livres pairs, qui sont les livres à l'intérieur de son œuvre, mais qui en même temps ont inspiré son œuvre, parmi lesquels, livre père, il y a d'ailleurs les chants de Maldoror, hein, Et tout ça m'évoque encore deux choses, pas terminable, mais c'est ça, cette machine infernale. Hein. Deux choses, c'est que, comme vous le savez, Jarry était un disciple de Mallarmé, il faisait partie des cercles de Mallarmé, et dans ces cercles-là, on a raconté une espèce de légende disant qu'un jour, même presque une nuit, on avait surpris le maître discutant toute la nuit avec son disciple, et c'est le disciple qui montrait au maître, c'est-à-dire Jarry, qui montrait à Mallarmé les règles du sommet. Et dernier élément de toute cette construction de machine infernale, je ne sais pas si vous le savez, mais le premier texte jamais publié par Rob Grillet a été la description, réelle d'un champignon africain imaginaire. Dans une revue scientifique. Il a publié dans une revue scientifique. Alors bon, c'est là qu'on voit l'inquiétude. Et quand vous avez dit « il est partout et nulle part », c'est une des anciennes définitions de Dieu.
Hein, oui. C'était une allusion à Flaubert aussi, hein, la
oui,
présence.
Ben c'est ça, voilà.
Non mais j'ai.
Dieu en toute simplicité. Hein,
mais... oui, sans
tapage. Sans tapage.
sans tonnerre, sans foudre. Oui, merci aussi de citer, j'avais évité la disparition élocutoire, donc vous l'avez rajouté, merci beaucoup, parce que je l'avais barré. Voilà, c'est tout à fait, oui, c'est ce que je voulais dire, en effet, c'est bien ça, qu'il y a, annexion possible de tous les auteurs qu'intègrent au post-exotisme les lecteurs. Alors on peut en effet intégrer Jarry, voire Rob Grillet, enfin je préférerais Jarry, mais bon. Et Volodine lui-même intègre donc des photographes, intègre des réalisateurs de films, enfin il intègre au post-exotisme tous ceux dont il s'accompagne en quelque sorte. Auxquels il associe son propre travail. Hein. Il y a la, on pourrait aussi parler de Borges, le jardin au sentier qui bifurque. Je veux dire que ça fait partie aussi des choses. Voilà. Et on pourrait aussi citer les musiciens. Oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a en effet un expansionnisme menaçant et très inquiétant.
Impérialiste,
disons-le carrément.
Mais on citait le voyage d'hiver, la littérature doit être faite par tous, hein, je le rappelle quand même.
Ça, c'est vraiment.
Bien sûr. Ouais. Alors,
oui
Pierre Ouellet.
Oui, ben c'est pour cette raison, je pense qu'on doit peut-être parler moins d'institutions littéraires post-exotistes que de destitutions, parce qu'il n'y a pas de contour propre à cet édifice. Ah,
d'accord.
Et en plus, il est mouvant. Moi, je constate que c'est un système en constante métamorphose, puisque certains livres, en tout cas, changent complètement notre perspective à intervalles assez réguliers sur l'ensemble du corpus. Quand le post-exotisme en discussion est paru, notre vision des livres précédents a changé. Et je pense aussi, quand on a réuni en le même volume les quatre livres de Paruche et de Noël, c'était en 2003, avec la préface, ça a aussi changé notre... parce qu'on les a intégrés dans le corpus. La parution des deux premiers livres de Bassman chez Verdi a aussi changé, et je pense que la saison d'automne 2010 va aussi, encore une fois, métamorphoser ce système-là, qui, finalement, vit une sorte de métampsychose, dont on sait que c'est un des thèmes majeurs de l'œuvre. Donc, l'auteur se réincarne constamment, non seulement dans ses pseudonymes ou hétéronymes, ou dans ses, je crois que les éditeurs qui vont faire paraître les trois prochains livres, on parle d'auteur, l'auteur, mais avec
au
S,
pluriel,
hein, comme écrivain avec S, qui est sur la page de couverture du seuil. Donc, il se réincarne constamment comme ça, de sorte que et je dirais qu'il ne se réincarne pas uniquement en rapport avec le futur, hein, comme c'est le cas de la métampsychose habituellement, c'est-à-dire la vie à venir, mais qu'il réincarne aussi les vies passées. Hein, le Volodine de Noël, le Volodine de minuit, celui de Gallimard, change finalement d'image au fur et à mesure que l'œuvre avance. Donc, on a quelque chose qui ne peut pas vraiment être institutionnel. Bon, je pense à un exemple, on en a cité plusieurs, Jarry, Perret. Je pense à Claude Lier, par exemple, qui a réuni tous ses livres sous le nom du jeu d'enfant. Enfin, pas tous ses livres, il a recatégorisé un petit peu tout ce qu'il avait écrit dans le passé, et en particulier en ordonnant ça à certains ouvrages sous le nom du jeu d'enfant, et en interdisant à son éditeur, maintenant POL, comme vous savez, Paul, de mettre les années. Parce qu'il ne veut pas qu'on voit ça comme une évolution et comme une espèce de nouvelle table des matières, si vous voulez, où chaque livre est comme un chapitre d'un seul et même volume. Donc, il y a vraiment une réorganisation qui s'est faite dans les 10 dernières années. Donc, il y a comme ça une volonté intéressante de considérer que le corpus est quelque chose de mouvant et qui peut donner lieu à des changements d'image, changements de perspective, avec comme ça un coup éditorial qui arrive à l'intervalle régulier.
Oui, merci Pierre. Mais pour moi, l'institution n'était pas du tout quelque chose de figé. Une institution, par définition, évolue dans le temps et elle bouge. Et elle, alors évidemment, à certains moments, on peut l'imposer comme norme, mais il y a une évolution permanente. Et donc oui, je ne le voyais pas comme quelque chose d'arrêté. Enfin, vraiment, au contraire. Oui, je dirais que alors pour rebondir sur autre chose, je dirais que finalement tout cela procède d'un mythe. Enfin, pour revenir aussi au beau livre de Nancy, du mythe du livre. Enfin, non pas de l'écrivain, mais du livre malarméen, quasiment. Tout ça, ça c'est en tout cas ce qu'est le projet d'Ollier, mais que je ne connais pas vraiment la teneur exacte. Mais tout cela est une façon, en effet, de recomposer la notion d'œuvre en une sorte de livre morcelé, un livre en morceaux, en fragments séparés, c'est Flaubert qui disait en tableaux séparés. Ça pourrait être quelque chose comme ça, le post-exotisme. Sinon que ce sont des voix, donc il faudrait aussi quelque chose qui englobe à la fois le phonique et le visuel, ce qui est plus compliqué.
L'œuvre post-exotique sur une série de tableaux, ça serait davantage comme une espèce d'installation qui changerait comme ça au fur et à mesure que l'artiste y ajoute un élément, donc quelque chose qui est vraiment qui occupe un espace un espace mouvant.
Et de même que dans la collection, l'ajout de voilà. Dans une collection qui a forcément une cohérence, un volume nouveau évidemment peut changer l'image de la collection ou bien y entrer, s'y intégrer ou pas, et là ça procède de la même manière.
Quelqu'un d'autre? Oui.
Alors, je trouve intéressant dans la manière dont vous avez présenté cette espèce de scission dans la fonction auteur comme sur un mode de vase communicant où plus on a du corps, plus on a du biographisme et moins on a finalement de prise en charge, de l'autorité et de la fonction auteur de la théorie littéraire. Parce qu'il me semble que, d'une certaine manière, l'œuvre de Bobotini, mais ce n'est pas la seule, elle fournit une sorte de réponse. On a parlé de coup d'éclat éditorial. À la manière dont fonctionne la réception aujourd'hui, justement, ce qu'évoquait Lionel aussi au début du colloque sur le contemporain, la sollicitation des auteurs. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui, aujourd'hui, perçoivent la surmédiatisation ou le fonctionnement par coup d'éclat comme quelque chose qui met en cause la littérature, finalement, et qui pose problème. Donc il me semble qu'on peut voir ça aussi comme une réponse, quand bien même c'est un dialogue artistique.
Je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, c'est une réponse et une réponse. Là, on pourrait reprendre un des termes qui était récurrent dans nos entretiens, c'est le terme d'agonique. C'est une réponse contre le fonctionnement médiatique de la littérature actuelle, en effet. Oui, oui. C'est pour ça que je parlais de défi, pour finir. Enfin,
Alors, Patrick Rebola,
ouais. Mais c'était un peu pareil. Mais je peux ajouter aussi, les développements que vous faites maintenant correspondent aussi bien à la définition du virus. Et je me rappelle une émission de France Culture qui traitait du virus des personnalités et par exemple de la carrière et de l'influence de Madonna ou Michael Jackson comme des virus sociaux. Et le développement du post-exotisme me fait penser un peu à ça. Alors, je pense que Rambouillet avait aussi cette idée-là.
Le corpus prend la tête du chef.
Est-ce que Patrick pourrait finir, peut-être?
Rambouillet avait aussi cette idée-là chez Minuit, de faire un système qui pourrait être en expansion comme ça, mais avec des vrais auteurs qu'il n'a pas pu maîtriser. Et je crois que Volody a trouvé un système plus intelligent avec des faux auteurs qui
arrivent très bien. Là, qui maîtrisent.
Donc après l'avoir appelé Corpus et Carotte, on peut l'appeler aussi Virus.
Et je crois que le terme de virus a été prononcé, mais je ne sais plus par qui. Alors, je ne sais pas.
Ça me rappelle une nouvelle de Gérard Klein, nouvelle de science-fiction, dont le titre dit tout, c'est « Dieu est un virus ». C'est l'histoire d'un savant qui un matin dit « J'ai vu Dieu sous mon microscope ce matin, c'est un virus ».
Merci mon petit.
Bon.
Oui, ça n'appelle pas de réponse. Hein. Oui, non, je veux bien avoir virus rouge, alors, carotte.
Quelqu'un d'autre? Une autre réaction? Non? Si? Alors, Dominique Soulès.
Une micro-intervention de détail. Dans cette attention que tu soulignais, Emmanuel, à la mise en page, le comptage des chapitres, etc., je pense qu'on peut ajouter les puces qui apparaissent dans une de mes vidéos qu'on n'avait encore jamais vues de façon explicite et qui, là aussi, parasite, si vous me permettez le terme facile concernant les puces, parasite la lecture ou du moins la questionne de façon extrêmement précise et incisive surtout. Voilà.
Oui.
Une sorte de, comment dire, l'interférence dans un texte littéraire d'une structure qu'on associe plus généralement à justement à quelque chose qui n'est pas littéraire. Et ça me semble aussi pouvoir être mise en relation avec cette attention que tu disais, Joël, qu'ont les poètes à la mise en page, etc. Enfin, voilà, même si publié chez Fiction et compagnie n'autorise pas, étant donné le format des livres, comme quelque chose qui serait de l'ordre du livre d'artiste, il y a un soupçon de ça, me semble-t-il.
Je suis tout à fait d'accord. On pourrait aussi, on pourrait poursuivre, hein. Il y a tout un usage de la typographie qui est extrêmement particulier. Et dans les listes, par exemple, ben, les listes de Macao, les listes de noms chinois, ou bien tout simplement les slogans qui interviennent dans les ports intérieurs, enfin les slogans en majuscules, hein, toujours, donc qui sont une espèce d'intervention, enfin de trouée graphique dans le fil du texte. Oui, bien sûr.
Oui.
Mais si on veut deux associations avant que toutes les associations ne soient pas confondues, il me semble que pas seulement Mallarmé ou Jarry, il y a d'un côté l'idée de multiplication. Bon, si on va au-delà de la métaphore du virus. C'est l'idée de la multiplication de l'écriture. Donc ça, c'est par exemple, moi, ça a commencé au procédé du cut-up, par exemple, chez Burroughs. C'est-à-dire comment on multiplie les pages, d'une part, Et puis d'autre part, à l'autre bout, c'est l'idée de faire un mouvement à soi tout seul. Comment il n'y a plus de mouvement littéraire, comment on peut faire des mouvements à soi tout seul par rapport au mouvement étant quand même ce qui est historiquement a pris en charge le dépassement de la fonction auteur.
Oui, oui. Tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai utilisé, pour parler du S d'écrivain, du S d'auteur, etc., j'ai utilisé le terme pluriel, mais j'ai hésité parce que peut-être multiple serait-il mieux. C'est bien ça, il y a une multiplication comme qui fonctionne sur le même modèle que la multiplication des livres. Le livre et la littérature, par définition, c'est le multiple par rapport à l'œuvre d'art qui est l'unique. Hein, l'œuvre d'art est du côté de l'unicité et la reproduction n'est jamais l'authentique, alors que du côté du livre et de l'œuvre littéraire, il y a au contraire la multiplicité possible et la reproductibilité.
Mais si je peux simplement ajouter quelque chose, si vous voulez vous amuser, vous pourrez retrouver dans les 343 ouvrages du post-exotisme un titre qui s'appelle « Multiplication des cellules », si je me souviens bien. Si je me souviens bien. À tous les sens du terme, évidemment. Alors, Frédéric, de tu ? Et puis après, ouais.
Tu t'es intéressé essentiellement à la mise en ligne, donc à tout ce qui est publication papier, mais il y a d'autres éditions, comme les vociférations en support sonore, enregistrement, etc. Il y a tout le corpus dont a parlé Anne, qui aussi déplace dans... Parce que, comme il y avait la question de la figuration de l'auteur à multiples facettes, je me demande si cet autre type d'édition, le fait aussi que, au-delà de cette d'hétéronomie et du fait de former une sorte de mouvement virtuel à soi seul, le fait de travailler collectivement, concrètement, que ce soit avec un musicien ou avec une équipe de théâtre. Par exemple, je pense à ce que j'ai malheureusement manqué, mais que j'espère avoir l'occasion de revoir, qui s'est passé à Paris pendant Paris en toutes lettres en juin dernier. Il y avait pour une lecture préparant la rentrée prochaine Antoine Volodine intervenant avec Dominique Pinon et Julie Pilot. Et donc il y a vraiment. Est-ce que cette dimension là de travaux collectifs ou évidemment avec Torgeman pour le théâtre de la manufacture, est-ce que et qui d'ailleurs risque de donner un autre terrain de publication pour Carnaval en Basse Clos, où j'imagine que ça peut encore se faire chez un éditeur inédit, si je puis dire, dans l'histoire du post-exotisme en tout cas. Voilà.
Ça va tout à fait dans le sens des interrogations actuelles sur l'auteur en régime numérique. Hein, il y a de fortes inquiétudes sur la propriété d'auteur. Et d'une certaine manière, Volodine anticipe cela dans la version qui est normalement encore dans le système de reproduction qui est encore le système traditionnel, le papier, mais évidemment, les autres supports vont accentuer encore la disparition de la fonction auteur. La preuve, mais je ne sais pas très bien cela, il aurait fallu, je n'ai pas voulu quitter, j'ai voulu donner des bornes, parce que sinon ça part dans tous les... Voilà, c'était vraiment autre chose. Mais par exemple, Seuls ceux que j'aime écouter, enfin sur le site de Verdier, donc dès qu'il y a un site et qu'il y a un site ouvert, il y a intervention possible, et si je me souviens bien, donc il y a là peut-être d'autres intervenants dans le post-exotisme, mais qui peuvent être plus ou moins désirés ou plus ou moins dans la logique post-exotique. Je ne sais pas, il y a là une ouverture, en effet, qui radicalise encore la question de la propriété d'auteur, de sa capacité à maîtriser, enfin, tout simplement à maîtriser la prolifération de son œuvre.
Avec le problème du plagiat que ça peut poser.
Voilà, bien sûr.
Dans le numéro de la Fenêtre du Requin, avec les journalistes de cette revue qui s'étaient
oui.
Amusés à faire des pastiches.
Oui, et peut-être.
Qui est-ce qui avait posé problème?
Le corpus voulait bien.
Oui, peut-être une dernière prise de parole si tout le monde... Non, ok, Pierre aussi. Bon, Pierre aussi.
Alors moi, pour la métaphore d'informatique, on a parlé de virus. Je me dis, le virus, c'est une déflagration dans un ordinateur à visée d'anéantissement. Et moi, je pensais plutôt à l'élément indésirable. C'est-à-dire, on appuie sur la touche supprimer, et puis ça revient sur une autre forme, et autrement, et ça revient gratter, déranger... gêné. Et je pensais qu'il y avait quelque chose de ça dans cette volonté de proliférer sous différents noms. Parce que c'est très très subtil les éléments indifférables, indésirables. Il y a des noms maintenant. Donc il faut faire très attention avant de l'ouvrir. Parce qu'ils sont. C'est Thierry qui va vous dire passez de bonnes vacances. Et puis en fait, c'est une publicité. De plus en plus, ils sont nominatifs.
Oui, oui.
Je pensais à ça.
C'est vrai.
Et Pierre Ouellet,
juste ajouter une petite chose, c'est que dans ce phénomène de prolifération éditoriale, il y a peut-être quelque chose d'un peu nouveau. C'est la possibilité, ou enfin l'éventualité, que les lecteurs sympathisants se greffe d'une certaine manière à cet édifice, un peu comme on a fait Frédéric et moi en réunissant les textes de séquences d'illustration du post-exotisme en 20 leçons, qui est un titre un peu emprunté à l'œuvre de Volodine, et en ajoutant, parce qu'on s'est posé beaucoup la question, est-ce qu'on en met sur Antoine Volodine ou autour d'Antoine Volodine, et on s'est dit qu'on va mettre avec Antoine Volodine. Donc il y a une espèce de greffon supplémentaire à cette œuvre qui vient des lecteurs sympathisants. Vous voyez, ce n'est pas un discours critique qui se développe indépendamment du corpus, comme on dit ici, sur lui ou à propos de lui, mais qui se développe avec lui, dans une sorte de co-énonciation. Et je crois que l'événement de cette semaine, qui va peut-être donner lieu à une publication, va s'inscrire aussi dans cette stratégie d'écrire avec et non pas d'écrire sur. Alors là, il y a peut-être une stratégie un peu différente de celle qu'on adopte dans d'autres auteurs où la distance est beaucoup plus grande.
Ouais. Mais c'est vrai que quand même, j'aimerais bien, même si c'est tout à fait juste, mais j'aimerais bien nuancer aussi, il y a quand même l'œuvre qui se multiplie, l'œuvre elle-même, et puis ce que Deleuze appelle plutôt des rencontres, que ce soit avec Denis Fryerman, avec Olivier Aubert, avec... Pourquoi pas les critiques, même s'ils sont insupportables. C'est plus de l'ordre de la rencontre, enfin un peu comme Deleuze quand il a fait son livre sur
la fraternité.
Oui.
Quelque chose comme de la fraternité.
Il a fait son livre sur le pli. Il a rencontré une association de surfeurs. Voilà, qui lui ont dit le pli, c'est nous. C'est nous le pli. Oui, voilà. Donc. Oui. Donc, je crois que c'est, il y a quand même deux niveaux différents, c'est-à-dire le développement du post-exotisme lui-même, et puis, voilà, une solidarité, qui est de l'ordre de la rencontre. Oui.
Il y a aussi une interaction au sens où Antoine disait l'autre jour avoir parfois été influencé par des échanges avec des universitaires, et au sens où nous, tous ces jours-ci, on a parlé de l'influence, de la manière dont son œuvre nous obligeait à repenser nos catégories. Donc, il y a aussi.
Oui, oui, mais ça vaut pour tous les auteurs d'une certaine manière.
Mais c'est exacerbé peut-être par ce dispositif.
Ça vaut mais je crois qu'une rencontre, c'est ça, une vraie rencontre, quelque chose.
Oui, il y a interaction.
Je pense
penser à l'expression de Pérec, parenté enfin retrouvée.
Oui, la parenté retrouvée. Bah oui, bien sûr.
En citant les autres, parfois même en moment, sans indiquer la situation, qui s'inscrit dans la littérature pour retrouver la parenté. Et donc avec Volodine, je vois un processus pas similaire, mais en tout cas comparable, parce que lui, il s'inscrit donc dans la littérature des narrateurs et sur narrateurs post-exotiques. Et deuxième remarque, quand on a parlé du tableau, j'ai pensé immédiatement à Puzzle, Mosaïque, mais aussi
mobile.
Où chaque élément aurait une petite mise en abyme très pervers, parce que même au niveau verbal, on retrouve des phrases entières, ou même des petits passages qui voyagent d'un livre à l'autre. Donc, il s'agit vraiment d'une sorte de mécano, mais mécano pas formel, formaliste, mais détraqué d'une manière tout à fait consciente.
C'est tout à fait d'accord. Sinon que la parenté, je dirais que la parenté, c'est vraiment la parenté perdue et qu'il s'agit de retrouver, enfin, les ascendants d'une certaine manière. Hein. Pardon ?
Jamais lu, oui, perdu, oui.
Oui,
voilà.
Oui.
Alors que là, c'est plutôt à égalité, je veux dire, sur le même niveau, la fraternité, même si il s'agit d'intégrer aussi bien les auteurs du passé que du présent. Enfin bon, il y a une possibilité d'intégration. Mais il n'y a pas la dimension, peut-être. De parenté, vraiment. Enfin, de parenté au sens d'ascendant, quoi. Ouais. Alors, j'ai l'impression que chez Pérec, c'est davantage ça, mais voilà, c'est une nuance.
Oui, bon. Merci à tous. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un quart d'heure.